retrouvons les rendez-vous de l'été. Manuel Maizeret, deux invités à vos côtés. On prend la direction de Barbâtre aujourd'hui.
Ah oui, aujourd'hui on parle d'histoire, de patrimoine avec deux invités de référence. Jacques Centreau, auteur de Barbâtre et son église dans l'histoire de Noirmoutier, bientôt disponible. Et Michel Moracchini, président de l'association RICMB, Relations internationales, culture et mémoire de Barbâtre, pour notamment des visites guidées de Nasse Fromentine à la Naval Air Station, ancienne base américaine de l'US Navy lors de la Première Guerre mondiale. Bonjour messieurs.
Bonjour. Bonjour Emmanuel.
Vous êtes tous les deux déjà venus à 9FM. On vous a déjà rencontré, Jacques Centreau, conservateur en chef du patrimoine, historien, archéologue, longtemps directeur du musée d'Aubrouet, entre autres. Vous êtes aussi donc aujourd'hui à la retraite, mais vous poursuivez beaucoup de recherches, d'écriture, notamment sur Barbâtre, avec ce nouvel ouvrage à paraître cet été. Alors on ne sait pas exactement encore quand, mais ça vient.
Première quinzaine d'août.
Première quinzaine d'août. Fruit de 3 ans de recherche, j'ai envie de dire même plus, j'imagine.
Oui, bien sûr. Oui, oui.
Parce que ça fait longtemps que vous écrivez, que vous recherchez des informations sur l'histoire de Barbâtre.
Je me suis penché sur l'église de Barbâtre à partir du 15 août 2017.
Donc ça fait un petit moment.
Ça fait un petit moment. Et j'ai voulu essayer de comprendre ce qu'était cette église, d'où elle venait. Je la trouvais un petit peu curieuse dans sa forme et dans sa construction. Et puis, j'ai demandé aux Barbâtrins, j'ai demandé aux curés, j'ai demandé, etc. Et puis, finalement, bien, j'ai poussé cette recherche. Je me suis intéressé aux vitraux parce qu'il y avait des saints un peu curieux, étonnants, qui étaient représentés. Et je me suis rendu compte que personne ne savait très bien ce dont il s'agissait. On avait perdu beaucoup de mémoire.
Et vous avez retrouvé beaucoup d'informations ?
Je me suis efforcé de retrouver beaucoup d'informations. Comme je suis curieux, je me pose beaucoup de questions et j'essaie de trouver les réponses à mes questions. Et les Barbâtrins m'ont répondu parce que je me suis appuyé sur la mémoire, sur la tradition. Mais j'ai toujours vérifié ensuite par les sources, dans les archives. J'ai recoupé toutes les informations et il y a beaucoup de légendes très amusantes, très intéressantes.
On va retrouver.
Qui ont quelquefois des parcelles, enfin qui reposent sur des parcelles de vérité, comme c'est très souvent le cas.
Alors on va en parler en quelques exemples, évidemment. Le sujet de la recherche, c'est l'église, la naissance d'une paroisse, mais aussi d'une commune. Donc c'est encore plus large que ce qu'on peut imaginer.
Ben, l'église, c'est un petit peu ce qui permet de cristalliser une agglomération. Elle vient quand il y a une population. Et le nom de Saint-Nicolas marque une date très ancienne. Seconde moitié du 11e siècle ou 12e siècle. Après, il n'y a plus de dédicace d'église à Saint-Nicolas jusqu'au 19e siècle. Mais aussi le nom même de Barbâtre. De Barbâtre qui commémore sans doute la victoire chrétienne de Barbastro, une petite cité du Haut-Aragon qui était musulmane et qui a été reconquise à la demande du pape par des chevaliers d'un peu partout. C'est une pré-croisade en 1064. Et dans cette croisade, il y a eu notamment des chevaliers français qui venaient soit de Reims et de la Champagne, où il existe à Reims une grande rue ancienne qu'ils appellent rue du Barbâtre ou du Barbastre ou de Barbastre. Et il y a eu aussi des chevaliers poitevins et Barbâtre, Noirmoutier, dépendaient du Bas-Poitou.
Donc ce serait effectivement.
Donc il y a tout lieu de penser que c'est une commémoration de cette pré-croisade qui a été la première victoire chrétienne sur les musulmans.
D'accord.
Très éphémère, puisque après le sac, le pillage de cette petite ville par les chrétiens, l'année suivante, en 1065, la ville a été reprise par les musulmans et puis la reconquête s'est mise en marche.
Alors vous nous parlez aussi du nom de Saint-Nicolas, il n'a pas été choisi par hasard pour la paroisse Saint.
Saint-Nicolas. On le retrouve tout le long du littoral et à l'intérieur des terres le long des estuaires parce que c'est le saint patron des marins. Alors on le connaît par la chanson des trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ, mais la chanson est une légende qui ne repose sur rien d'autre que la libération par Saint-Nicolas de 3 soldats romains injustement condamnés et qu'on représente habituellement au sommet d'une tour. Sauf que en Orient et les représentations sont un petit peu comme en Égypte, le plus grand personnage est le plus haut et le plus représentatif et les plus modestes sont plus petits. Donc le saint était représenté grand, la tour est devenue un baquet et les trois petits enfants, ce sont les 3 soldats libérés.
En tout cas, il inscrit Barbaste dans une tradition hein, de maritime, de marin, pêcheur.
Voilà, c'est un saint patron des marins parce qu'il a été invoqué par des marins et il a sauvé un bateau. Et donc, depuis lors, alors qu'on ne le représente jamais avec des attributs maritimes.
Oui.
Et pourtant, Saint-Clément, en revanche, oui.
Mais Saint-Nicolas, non.
Saint-Nicolas, non.
Alors, vous nous racontez donc le rôle de Saint-Nicolas, évidemment, le rôle de l'Église dans le quotidien des habitants depuis deux siècles au moins, depuis des siècles. Les cloches rythment le quotidien, les heures de labeur. Voilà, ça fait partie un petit peu de votre recherche aussi. Comment l'Église, la pierre, la cloche va nous intéresser, nous passionner, nous enrichir sur l'histoire des habitants?
Alors, bon, j'ai étudié cette église, bien entendu, et à partir de cette église, je suis retombé sur beaucoup d'informations sur l'agriculture, la vie quotidienne, le patois, et donc ces cloches. Il y a eu une légende qui me disait que la petite cloche du clocher, il y a trois cloches actuellement, était en fait une cloche de bord d'un bateau qui avait fait naufrage en 1798. Et lorsque je suis monté étudier les cloches avec l'autorisation du maire, bien sûr, j'ai trouvé sur la grosse cloche une mention 1782, 1855, 1936. 235 ans de service religieux. Alors, j'ai compris finalement que le bateau dont on connaît le nom a bien coulé, que l'échillette, c'est-à-dire la petite cloche du bord, a bien été sans doute transportée à l'église pour remplacer les cloches qui avaient été pillées par les républicains pour en récupérer le métal, et que cette cloche avait été utilisée depuis 1782, la date du lancement de la frégate en question, refondue en 1855 pour faire la grosse cloche précédente, qui a coulé, qui a été cassée, fondue lors de l'incendie de 1936 lorsque l'église a été foudroyée, et donc 1782, 1855, 1936, effectivement, cette petite cloche a bien travaillé pendant 235 ans avant d'avoir été refondue en 1937. Ce sont les cloches actuelles.
Et donc on apprend aussi pas mal de choses de l'histoire de l'île, avec un grand H, j'ai envie de dire, hein, de l'histoire
coupée à celle de la... Parce que l'église a été sinistrée, elle a été démontée sous la pression des baïonnettes par les survivants de la répression républicaine lors de la reconquête en janvier 1794 de l'île, et les barbatrains ont été punis. On a détruit 87 maisons, on a détruit l'église. Pas tout à fait, on a dit qu'elle a été rasée, non. D'un côté jusqu'à 80 cm du sol, de l'autre côté 1,50 m. Mais toutes les pierres ont servi à construire un fort éphémère qui a duré 4-5 ans sans doute, au matois, c'est-à-dire au rond-point du bonhomme, par là, du côté de la Guérinière, pour commander, pour protéger la ville de remontée... royaliste depuis le sud, ou pour couper l'île s'il y a une invasion d'un côté ou de l'autre. Voilà. Et donc cette église a été reconstruite par ses habitants dès qu'un curé est arrivé, dès qu'un prêtre est arrivé en 1801. Elle a été agrandie en 1828, 1874, et toute cette église a été reconstruite par ses habitants sans architecte, mais sur les fondations de l'ancienne église du XVIIIe siècle, dont on ne sait pas la date, peut-être du XVIe.
C'est aujourd'hui donc le site qu'on peut visiter, qu'on peut découvrir, ce dernier site reconstruit au XIXe.
Tout à fait.
Et donc on apprend beaucoup de choses dans votre livre, beaucoup de faits, de données et d'illustrations. Vous avez évoqué votre curiosité sur l'iconographie, sur les vitraux un peu spéciaux. Qu'est-ce qui vous a alerté en fait en les regardant? Enfin, alerté, ben, c'est pas le mot, mais...
En regardant les vitraux, je suis tombé sur un vitrail d'un saint que je n'avais rencontré qu'en Vieille-Castille, en marchant sur le chemin de Saint-Jacques, et c'était Saint Isidore le Laboureur.
Vous l'avez déjà raconté, je me souviens de cette
voilà.
histoire.
Mais bon. Et c'est un saint qui est un valet de ferme, en fin de compte, qui a vécu vers 1100. Et je n'ai pas compris pourquoi il était arrivé jusqu'ici. Mais en fait, l'ensemble des vitraux a été payé par les agriculteurs. Il faut savoir que Barbate, il n'y a que 8% au 19e siècle, 8% des barbatrins qui vivaient de la mer.
Ah oui.
Ce sont des agriculteurs.
Et
il y a eu en 1868, le 5 mai 1868, un orage terrible qui a noyé toute la plaine d'eau et qui a donné des récoltes faramineuses. On disait que les gens ont acheté du bétail, ont acheté des charrettes, ont construit des maisons, etc. Et le curé a pu demander aux gens de contribuer. Et donc, ce sont effectivement les Barbatrins qui ont financé grâce à cet orage. Après, il y a eu 8 années de famine. Hein.
Ah oui.
Mais auparavant, ils avaient quand même réussi à payer pour le curé les huit vitraux de la nef.
Voilà.
Parce qu'il
n'y
avait pas le cœur actuel à ce moment-là.
On apprend cela en vous lisant, puis on peut rajouter aussi, vous avez récemment complété, il y a quelques semaines maintenant, hein, le corps de texte de recherche réalisé par Michel aux Pays-Bas. On va faire une transition. Alors juste un mot avant que Michel nous raconte un petit peu ce voyage et sa découverte. Racontez-nous un petit peu ce qui est le lien entre vous deux sur cette recherche.
C'est une grande chance. Et du hasard, naturellement, qui, comme chacun sait, fait bien les choses. Ça faisait 4 ans que je recherchais, j'avais lu, bien entendu, que 6 cloches avaient été pillé, volé à Noirmoutier par l'amiral Tromp, l'amiral des Pays-Bas, qui se vengeait en fait de la guerre que lui faisait Louis XIV et Turenne, qui avait détruit 2 de ses propriétés, volé une propre cloche de l'amiral et qui est venu piller l'île pendant 21 jours.
Au XVIIIe siècle
17e.
17e, pardon.
1600,
oui, le 14, j'étais en
1674.
Mais oui.
J'avais vu que des publications mentionnaient dans les années 1900 que 2 cloches sonnaient encore dans des clochers des Pays-Bas. Alors naturellement, j'ai fait des démarches auprès de l'ambassade, auprès des universitaires, de campanologues, de spécialistes des cloches, etc. Mais tous étaient tellement effrayés par la masse de documents à traduire du néerlandais que, j'ai été à peu près prêt de renoncer. Et travaillant avec Michel Morachini, sur d'autres sujets, j'ai découvert que son épouse, Cécilia, parlait le néerlandais. Et je les ai envoyés en mission et ils ont trouvé.
Ils ont trouvé des cloches qui ont été pillées au XVIe siècle. Je vais y arriver. En 1600, au XVIIe siècle. Hein.
1674, oui, c'est Louis XIV.
1674, oui. Bah, écoutez, incroyable. Avec nous, effectivement, Michel Morachini de l'association RICMB, Relations internationales, culture et mémoire de Barbade. Michel, passionné d'histoire locale aussi. On vous a reçu régulièrement. Hein. Notamment, vous faites des visites pendant tout l'été, comme chaque année, sur un beau site barbatrin, justement. Et vous avez été au Pays-Bas. Et vous avez retrouvé ces cloches, c'est exceptionnel, on en parle dans 3 minutes.
Après le dernier Maroon 5, bon appétit, 12h50 sur Nov. It's beautiful, it's bittersweet, you're like a broken home to me. I take a shot of memories in black, I like an empty street. I feel my days with the way you walk and fill my nights with broken. Les Maroon 5 sur 9 FM, la suite des rendez-vous de l'été, Emmanuel Maisorette.
Et on parle d'histoire locale, ça vous passionne peut-être, hein, le patrimoine aussi de votre territoire. Eh bien, nos deux invités sont passionnés et leurs recherches succèdent et s'enrichissent. Avec nous, Jacques Centreau, auteur de Barbâtre et son église dans l'histoire de Noirmoutier, bientôt publié, hein, début août. Et puis à vos côtés, Michel Moracchini, président de l'association RICMB, Relations Internationales, Culture et Mémoire de Barbâtre, qui fait aussi plein de recherches. Les kilomètres ne vous font pas peur quand vous allez aux Pays-Bas. Sur les conseils, j'ai bien compris, hein, de Jacques Centreau, eh bien, c'est toujours avec Barbâtre en tête. Michel, racontez-nous donc rapidement cet incroyable voyage que vous avez réalisé.
Je connaissais Jacques par l'intermédiaire de son travail admirable, hein. Il ne me connaissait pas. Et mon épouse est sud-américaine, mais parle néerlandais couramment, c'est sa langue maternelle. Elle a de ce fait de la famille aux Pays-Bas. Et depuis quelques années, je m'étais déjà intéressé plus ou moins aux églises et à l'église de Barbâtre, et notamment à nos cloches qui ont disparu en 1674. J'avais dit déjà à mon épouse il y a plusieurs années que j'aimerais bien faire des recherches sur ces cloches. Donc j'avais invité M. Centreau venir à la maison pour parler d'autre chose liée à l'histoire, et puis de fil en aiguille, je lui ai annoncé que j'allais prochainement aux Pays-Bas, et si vous voulez, je vais rechercher nos cloches qui avaient disparu depuis cette date, et je voulais mettre à disposition mon travail de recherche. Donc il a été très intéressé, et à partir de là, je suis parti aux Pays-Bas. J'avais quelques brides, j'ai rencontré un acteur, je ne savais pas que qu'il était acteur, mais il s'occupe de la cathédrale d'Amsterdam, il fait des visites, il est acteur, il donne aussi des cours de comédie. Je l'ai su après qu'il était acteur, parce que quand j'ai vu son intitulé, j'ai vu il était acteur professionnel. Donc ce monsieur-là fait des recherches pour moi, il m'a envoyé des liens. Je suis allé dans l'église où abrite la tombe de Cornelis Tromp, et de fil à l'aiguille, il y a plein de gens, plein de Néerlandais qui sont associés, très intéressés par des Français qui recherchaient des cloches de Barbâtre et de l'île de Noirmoutier. Donc ils m'ont dirigé à droite et à gauche, et c'est comme cela que j'ai atterri dans la ville de Oud-Loutstrèche. Et cette église-là est fermée depuis un an et demi, et donc elle a été mise en vente, et c'est une fondation qui est en train d'acheter. Normalement, ça y est, ça doit être fait. Et il n'y avait personne, tout était fermé. J'ai vu une dame dans une voiture, je me suis approché d'elle, la seule dame, et quand j'ai parlé en anglais avec elle, j'ai commencé à parler de l'église, je venais de Noirmoutier, et automatiquement elle m'a parlé de Marianne de la cloche. Donc elle était très au courant, entre Noirmoutier et la cloche, et c'est là qu'elle m'a dit l'église est fermée. Elle m'a dit attendez, j'appelle mon époux. Son époux est venu, justement, il fait partie de la fondation qui a acheté l'église. Il a sorti les clés de sa poche de l'église, mais par contre on n'a pas encore signé, j'ai pas le droit de vous faire visiter cette église. Il a appelé à notre personne qui est venue à toute vitesse 15 minutes après.
Sympa.
Qui a ouvert l'église et je suis monté au clocher tout en haut,
oh là là.
À un endroit extrêmement restreint, je pouvais pas passer le corps, et j'ai filmé. J'ai embrassé Marianne et je l'ai fait sonner, et j'ai pris beaucoup de photos et de vidéos que j'ai partagées avec Jacques.
Grand
et après
moment.
De fil en aiguille, je suis parti à Corgen où était
Suzanne.
Alors Suzanne, la première cloche a été connue. Hein, elle n'est pas totalement disparue.
Oui,
la deuxième cloche,
ouais.
Suzanne avait disparu depuis 1943-1944 parce qu'elle était vouée à être fondue par les Allemands. Les Allemands l'avaient fait décrocher, et Suzanne était partie dans un bateau avec 300 autres cloches vers l'Allemagne pour être fondue sur un bateau néerlandais. Mais il fallait savoir qu'il y avait de la résistance néerlandaise et qu'ils ne voulaient pas que leurs cloches quittent le pays. Et en pleine mer, ils ont ouvert les vannes et ils ont fait couler le bateau avec Suzanne. Et à partir de là, en France, enfin, personne ne connaissait l'histoire de Suzanne.
On pensait qu'elle était noyée.
Les gens pensaient qu'elle était partie en Allemagne.
Ouais.
C'est cet épisode de la résistance. Elle a été ressortie de mer en 1946 et replacée dans le clocher de Corgen, où j'ai eu la chance de voir madame la pasteur, Karine van den Broek. Cette église-là était également fermée depuis 6 mois, et travaux intérieurs et extérieurs, et grâce à des personnes, elle est venue vers moi. Elle m'a ouvert la porte et nous sommes montés, nous avons grimpé au sommet du clocher, et j'ai pu prendre Suzanne dans mes bras, l'embrasser, la faire sonner, et voilà, c'est toute
c'est
une histoire
incroyable.
Et le fruit de mon travail que je partage avec Jacques.
J'imagine votre admiration. Il reste 3 minutes seulement, Michel, donc on va un petit peu se dépêcher, parce que je vous ai aussi invité pour parler de vos visites guidées de l'été à Barbâtre, hein, les jeudis et samedis matin, des fameux vestiges d'une ancienne base américaine de la Première Guerre mondiale. Alors je sais que là, voilà, ces temps vous passionnent depuis des années, cette période brigade a accueilli plusieurs centaines de soldats américains. Je crois même qu'elle a été désignée par
l'amiral Maillot, la meilleure base de l'Atlantique.
C'est ça, voilà. De l'Atlantique, des côtes françaises.
Voilà, de l'Atlantique. Il parle de l'Atlantique. Alors, je ne sais pas sous quels critères, mais c'est ce qui est écrit dans ses mémoires.
Hein. Et de grands noms l'ont visité donc, pendant la Première Guerre mondiale.
Alors, il y avait Roosevelt, hein, Delano Roosevelt, hein, Franklin Delano Roosevelt, qui était jeune secrétaire adjoint à la Navy à l'époque, hein, qui a visité cette base le 16 août 1918. Hein, là, je passe d'une guerre à l'autre. Problème de mémoire et de date. Et après, par la suite, au mois d'octobre, l'amiral Maillot, qui est également visité, et là, a nommé cette base la meilleure base de l'Atlantique.
Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui comme vestige à visiter ?
Alors, il y a beaucoup de chapes, il y a une cheminée, la cheminée du commandant Cap Hart, de son baraquement, qui est toujours aux trois quarts existante. Donc, et je fais visiter cette base, hein, les vestiges. Je commente, c'est une visite commentée et illustrée. Donc, je remets des photos d'époque, hein, quand on pose en 1918, des photos aériennes, des photos prises de terre, tout en expliquant l'histoire de cette base, l'histoire militaire, mais l'histoire humaine également, qui est très poignante.
Vous faites toujours plein de recherches, vous découvrez plein d'histoires comme ça, très personnelles.
Toujours, je trouve continuellement. Je savais qu'il y avait un décès au cours de la Première Guerre mondiale lié à cette base. C'était un monsieur qui venait de Pauillac, mais il n'a pas eu le temps, il était muté sur l'île de Noirmoutier à cette base à Naval Station Fromentine, et il est décédé d'une pneumonie. Il a été enterré, il est toujours à La Rochelle. Et en cours de mes recherches, notamment des cloches aux Pays-Bas, je suis tombé sur un militaire, un jeune barreur qui est mort, qui a fait toute sa carrière sur la Naval Air Station Fromentine, donc à Barbate, qui est mort également du pneumonie.
Sur l'île aussi.
Il a été enterré à Saint-Jean-de-Mont jusqu'en 1931, et son corps a été exhumé, et maintenant il repose auprès de ses parents aux États-Unis.
Alors on aurait, je pense, des heures de questions à vous poser. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut venir vous voir. Donc,
tout à fait, tous les jeudis, donc il faudra me contacter au 06 31 26 21 97. C'est très important. Donc c'est un tarif de 2,50 €, une modique somme de 2,50 €, de 10h à 12h30 approximatif, hein, 2h30. La semaine dernière, on a mis 3h, tellement les gens ont été intéressés. Et donc voilà, on déambulation sur 2h30, on parcourt à peu près 1,8 km. Oui, on s'en rend pas compte. Hein.
Et on précise, c'est vers la pointe de la Fosse, je l'ai pas précisé ça.
Alors c'est pointe de la Fosse, hein, même si ça s'appelle Naval Air Station Fromentine, ça n'a rien à voir avec Fromentine, la barre de Mont.
On pense que c'est à Fromentine.
Voilà, c'est à la faute pointe de la Fosse, à Barbate. Nous, on donne nos rendez-vous face à l'estacade tous les jeudis, mais avant, faut m'appeler parce que si je n'ai pas de personnes qui s'enregistrent, je ne les prends pas.
Forcément. Donc on a aussi une page Facebook, un RSIMB. Il est 13h, je vois Arnaud qui me fait des grands signes. On pourra donc évidemment suivre très vite, très prochainement, la sortie du livre de Jacques Santrou, et j'imagine des séances de dédicaces au mois d'août qui vont suivre. Vous pouvez me faire confiance, on en parlera à l'antenne.
Le 14 août, à la bibliothèque de Barbate.
Très bien, merci à vous messieurs. Et puis voilà, à suivre, on fera peut-être d'autres émissions sur le sujet dans les mois à venir. Très très bonne fin de journée à vous. Demain, on se retrouve pour parler des 5 jeudis d'Autrefois Chalands. Attention à la terrière, hein, c'est pas dans la ville, mais ça commence ce jeudi avec Autrefois Chalands.
Le rendez-vous de l'été, c'est pas assez long en fait. Hein.
Non, vous avez vu ça.
Il va falloir y repenser. Hein. Bon, merci Manuel, merci à vos invités. Bien évidemment, bon appétit, très bonne journée à vous tous. Sur Nov, il est 13h, rendez-vous des infos. Et Mike and the Mechanics arrive.